Cours de compassion en français, conférence numéro 5 du 14 novembre 2022. Toutes les conférences de Tom commencent par une ou deux minutes de silence, une occasion pour les participants ou participantes de faire une transition et de se connecter avec ce qui est vivant en eux ou elles. Check-in. Je ressens et consulter la liste des sentiments parce que j'ai besoin de et consulter la liste des besoins. Le check-in est un moment privilégié et constant des conférences de Tom. Une façon pour chacun, chacune de répondre à la question « Comment est-ce que je vais ?» Un peu comme prendre conscience de notre météo intérieure. Tom, j'ai toujours une pointe d'anxiété au commencement de ces conférences et je prends cela comme un signe qu'elles sont vraiment importantes pour moi. Et cela m'amène au deuxième point de mon check-in, un sentiment de gratitude, d'une appréciation pour vous, pour mon équipe. Ce sentiment de gratitude, je le ressens viscéralement dans mon corps. Joseph, je dois être opéré jeudi de l'épaule après un traumatisme et je ressens naturellement de l'anxiété à l'idée de cette chirurgie. J'ai réfléchi aux besoins qui seront satisfaits par cette intervention, à ceux qui ne le seront pas si je ne subis pas l'intervention. J'ai retiré de cet exercice une expérience profonde. Les besoins qui seront satisfaits par la chirurgie sont assez standards, mais les besoins qui ne seront pas satisfaits si je ne me fais pas opérer sont de nature plus spirituelle. Ça a été comme une révélation pour moi. Tom, j'adore cet exercice, pondérer nos besoins. On dispose de tellement d'échelles pour mesurer dans nos vies le poids, la longueur, mais je trouve que mesurer nos besoins est une source d'information formidable. Tammy, Tom, je suis très reconnaissante de la façon dont tu expliques comment initier des conversations qui risquent d'être inconfortables. Avec les fêtes de fin d'année qui s'annoncent, il va y avoir un problème dans notre famille et je ne sais pas comment le gérer. Et je t'ai entendu dire, est-ce que tu serais d'accord pour en parler? Je trouve cela tellement simple et riche de potentiel et je ressens de l'espoir, de la gratitude. Et quelle que soit l'issue, j'ai la possibilité d'initier une conversation, de faire ma part et cela satisfait mon besoin de connexion. Tom, Marshall m'a offert cette option de parler dans une nouvelle dimension. Pas dans le modèle qui a raison, qui a tort, mais plutôt qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va soutenir mes besoins, qu'est-ce qui fonctionne. Ce n'est pas une conversation politique, c'est une conversation entre êtres humains qui ont tous les mêmes besoins. Est-ce que cette façon de parler fonctionne pour moi? Est-ce que cela satisfait mes besoins ou pas? Janet, je suis très heureuse d'être ici. Je trouve qu'être présente ici me permet de me connecter à ce qui est vivant en moi et aussi de me connecter avec les autres participants, de ressentir cette énergie dans mon corps. Même avant que la conférence ne commence, je ressens cette énergie simplement en voyant ton image apparaître sur Zoom. Je ressens cette énergie sécurisante, alors même qu'il se passe plein de choses dans ma vie où mes besoins ne sont pas satisfaits dans mon travail, mutualité, réalité partagée. Il y a aussi plein d'autres sources de stress, un décès dans notre communauté, une biopsie cette semaine, mon voyage outre-mer pour mon époux. Tout ce que ce cours m'enseigne, c'est qu'il y a toutes ces choses qui nous arrivent en même temps et que c'est cela qui nous rend vivants et que c'est OK. Dans le passé, j'aurais probablement essayé d'éliminer certains de ces conflits et je n'aurais été alors qu'à moitié vivante. Merci pour ce cours, c'est ma seconde année et je vais y participer Pour le reste de ma vie, j'en ai besoin. Tom. Marshall m'a enseigné à me connecter à la vie quand les choses ne vont pas comme on le voudrait. Et au lieu de rationaliser, de prétendre ou de se mettre dans le déni, on peut se connecter à nos besoins et se connecter à la vie. C'est important pour moi d'entendre ce que tu dis, Janet. Quand je passais du temps avec Marshall, il avait l'habitude de dire que lorsqu'on reçoit une appréciation, notre corps sécrète un produit qu'il appelle le jus de girafe. Suzanne, je voulais dire que ce cours nourrit mon besoin d'équanimité. Réagir avec calme quand quelque chose important ou imprévu nous arrive. Vivre avec des ados en est un bon exemple, surtout pendant la pandémie. J'ai suivi beaucoup de cours, mais je reviens toujours à celui-ci. Je me sens bien, chaque fois j'apprends de nouvelles habiletés, j'en suis à ma 4e année. Tom, merci pour ces commentaires. On parle d'habiletés ici, pas d'informations que l'on essaie de mémoriser. C'est un work in progress, un travail en cours. Je suis pas mal certain que je n'aurai jamais fini et cela me va très bien d'essayer de faire un peu mieux chaque fois. Karen, pour moi, c'est comme planter un jardin. Tom, c'est intéressant que tu mentionnes un jardin. La communication non violente a effectivement pénétré le monde de la permaculture. Jenny, la référence au jus de girafe me fait sourire. Besoin de gentillesse, d'humour. L'infrastructure de ce que tu as créé est incroyable. Tom, on ne peut pas visualiser une vidéo de Marshall sans y trouver de l'humour, des rires, quelles que soient nos circonstances. Allez, allons-y. On va maintenant revoir 5 semaines de contenu du cours. Tous les ans, je révise le contenu du cours et je le réédite. Ce dont nous parlons est une nouvelle façon de communiquer appliquée à de vieux trucs, par exemple les apologies. On remplace de vieilles habitudes par une façon nouvelle qui nous anime d'une nouvelle vie. Semaine 17, l'usage bienveillant de la force, protection ou punition. Comment s'ajuster aux différentes situations? Par exemple, à un enfant qui se jette dans la rue sous une voiture, à une attaque physique sur nous. C'est de ça dont on parle. Comment prendre en compte ces situations critiques et en même temps garder notre attitude de compassion? Protection versus punition. C'est ça le truc. Qui suis-je dans ces moments? Quelle est mon intention en utilisant la force? Quand on est en colère ou stressé ou en danger, on se tourne vers le jugement, les bons et les mauvais. Quel genre de relation et de connexion peut-on créer avec quelqu'un étiqueté mauvais? Peut-être en fait, c'est seulement quelqu'un qui souffre. Est-ce que l'on peut stopper l'action qui est en cause sans nécessairement juger la personne? Dans ce cadre de compassion et de connexion à l'autre, on n'est pas là pour punir, mais pour protéger. Nous protéger, mais aussi protéger la personne dont on se protège. Dans l'exemple du gamin qui se jette dans la rue, est-ce qu'on a le temps de faire la liste? Observation, sentiment, besoin? Non, bien sûr, on va arrêter le gamin, mais pas pour le punir. Dans l'ancien modèle, on lui dirait « Tu as couru dans la rue et tu vas être puni ». Le gamin apprend de ses propres parents qu'il est mauvais. Il apprend aussi que la prochaine fois, il va courir dans la rue quand ses parents ne seront pas là. En communication non violente, on va utiliser la même force pour le sauver, mais l'intention est différente. L'utilisation de la force est protectrice. Je suis effrayé parce que je t'aime et je veux te protéger, pas te punir. On utilise l'incident pour se connecter. Semaine 18, croyances et besoins. Tout ce que je fais c'est pour nourrir un besoin. Mais aussi, tout ce que je pense, c'est pour subvenir à un besoin. Et on peut alors aussi donner de l'empathie à nos pensées. L'idée n'est pas d'abolir nos croyances, simplement de se demander, est-ce que mes croyances fonctionnent pour moi? Est-ce qu'elles servent mes besoins? Plutôt que, est-ce que mes croyances sont vraies ou fausses? Par exemple, croyance, je suis paresseux. Le point important n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas, mais plutôt, quel besoin est-ce que je nourris quand j'adhère à cette pensée? Peut-être que le besoin que j'ai est en fait de me motiver. Si j'introduis l'empathie et mon besoin de motivation, ce que j'essaye de faire en me traitant de paresseux est me motiver. Ça, c'est cool. Pourquoi est-ce que je veux me motiver? Parce que je veux être productif. C'est la vie sans les croyances autodestructrices. De paresseux, je passe à intéressé à être productif. Différentes expériences de qui je suis. Autre exemple, le monde est dangereux. Si je donne de l'empathie à cette croyance, qu'est-ce qu'elle accomplit? Cette croyance me protège. Maintenant, si je suis constamment à l'affût du danger, il y a des besoins qui ne seront pas nourris. J'ai moins de chances d'être ouvert sur le monde, connecté. Donner de l'empathie à nos croyances permet d'explorer les besoins. Un aspect intéressant des croyances est qu'il existe presque toujours un opposé à chaque croyance. Par exemple, le monde est dangereux, se transforme en le monde est sécuritaire. Si je donne de l'empathie à cette croyance, mes besoins de connexion seront plus facilement nourris, mais bien sûr, pas mon besoin de sécurité. Ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant nos croyances du point de vue des besoins, on peut les réformer ou en créer d'autres. Par exemple, parfois le monde est dangereux, parfois le monde est sécuritaire. Une fois la croyance réformée, je peux me demander si cette nouvelle croyance me convient, mais pas me demander si elle est vraie ou si elle est fausse. Semaine 19, l'art d'observer. Ma capacité d'observer est liée à ma capacité à me connecter à mes besoins et seulement à ce moment-là, je peux développer la capacité d'observer. Toute notre vie a été absorbée par le poids de nos jugements, qui nous empêche de faire des observations dénuées de jugement. Par exemple, regarde-les ces gens-là, ils sont stupides. C'est un jugement. Mais si je peux calmer la voix du jugement à travers l'empathie ou l'auto-empathie, je peux créer une ouverture pour une observation. Un autre exemple, regarde la pièce dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu penses qu'elle est grande, petite, moyenne? Est-ce que cela mérite un jugement ou une discussion? Ou bien on peut passer à l'observation. Cette pièce mesure 20 mètres carrés. L'observation nous éloigne du jugement. Un autre exemple, quand je dis « Oh, quel idiot !» Quels besoins ai-je qui ne sont pas nourris? Peut-être qu'une autre façon de dire est « Oh, tu n'as pas fait le plein d'essence dans la voiture avant de partir et maintenant on est en panne et il fait noir et j'ai peur. » Les jugements sont moraux et nous déconnectent alors que les besoins favorisent la connexion. Si je dis à quelqu'un « Qu'est-ce que tu es stupide ?» Cela ne va pas faciliter la connexion. Alors que si je dis, tu n'as pas fait le plein d'essence avant de partir et maintenant on est en panne dans le noir et j'ai peur, je rentre dans une autre dimension, celle des besoins. Un bon moyen de savoir si l'on est dans l'observation est de se poser la question. Est-ce que ce que j'observe pourrait être enregistré avec une caméra ou un microphone? Encore un exemple de la vie courante. Tu me cries dessus ou après, ou bien tu as élevé la voix. Ça n'est pas vraiment une observation. Mais la contrepartie pour être mise en observation est difficile. Et il y a une façon de faire différente de dire « Oh, tu parles habituellement à 15 décibels et à 25 mots par minute et soudain tu es passé à 30 décibels et 60 mots par minute. » Difficile à produire. En revanche, une autre façon pourrait être de dire « J'observe que j'ai une réaction au son de ta voix. Est-ce que tu es en colère ?» Semaine 20, une honnêteté qui fait peur. On abandonne souvent l'idée d'avoir une conversation honnête parce que l'on a peur de la réponse. Comment est-ce que l'on peut aborder ces conversations difficiles avec intégrité? Est-ce que l'on veut corriger ou se connecter avec l'autre? Si l'on choisit la connexion en partant des sentiments et des besoins, on va pouvoir avoir une conversation. Et tout le travail se fait avant d'ouvrir la bouche. Premièrement, check-in. Est-ce que je veux corriger ou me connecter? Deuxièmement, auto-empathie. Troisièmement, connexion à mes besoins et peut-être aux besoins de l'autre. Qu'est-ce qui se passe en moi et peut-être chez l'autre? Quatrièmement, maintenant, je peux exprimer ce qui est vivant en moi. Un exemple. Quand je t'entends parler de ces gens, j'ai l'impression que tu es raciste. Ça, c'est de l'honnêteté chacale, ineffective et apeurante. Peut-être, on pourrait dire, quand je t'entends parler de ces gens, j'observe que j'ai une réaction. Je ne partage pas la même réalité que toi sur le sujet et j'aimerais que l'on en parle si tu es d'accord. Je ne critique pas, je ne juge pas. Et bien sûr, je n'ai aucune garantie que les choses vont aller comme je le souhaite. C'est pour ça qu'on appelle ça l'honnêteté qui fait peur. En fait, ce n'est vraiment qu'une option à mettre en lien avec notre auto-empathie avant de prendre la décision de savoir si je veux vraiment avoir cette conversation. Parce qu'il se peut que, tout bien pensé, je décide de ne pas l'avoir. Le plus important est de me centrer et me connecter à mes besoins. Semaine 21. Les remerciements, quand l'appréciation vient du cœur. C'est passé du « bien joué, beau travail » à « merci de créer un environnement où j'ai l'impression de compter » ou encore « merci de prendre le temps de m'écouter » ou bien « merci de partager cette information avec moi parce qu'elle a eu un superbe impact dans ma vie. » Je me souviens, dit Tom, d'une expérience avec une vendeuse dans un grand magasin qui m'a abordé alors que je déambulais dans les rayons et demandé si elle pouvait m'aider, puis m'a dirigé vers le rayon que je cherchais. Au lieu de simplement dire merci et continuer mon chemin, je me suis arrêté et je lui ai dit « Merci, vous m'avez fait gagner 10 minutes et vous m'avez évité de tourner dans le magasin complètement confus. » J'ai vu son visage s'illuminer d'un sourire et elle a reçu mon commentaire comme un cadeau parce qu'il venait du cœur. Ce n'est pas une approbation « bon travail », c'est une expression qui vient du cœur. On peut pratiquer ces moments de gratitude qui viennent du cœur à tout moment et c'est tellement précieux. Quelque chose m'arrive, observation, qui a un impact pour moi et je retourne une appréciation qui vient du cœur. Le don est pour les deux personnes, celle qui reçoit et celle qui donne, grâce à la connexion qui est établie et qui rend la vie plus belle pour les deux parties. C'est différent d'un compliment qui serait une approbation. On passe maintenant aux questions. Tom, est-ce que interrompre quelqu'un ou même crier ou hurler pour arrêter une action, est-ce que cela peut être considéré comme l'utilisation bienveillante de la force? Pour Tom, l'utilisation bienveillante de la force est réservée exclusivement à l'utilisation de la force physique pour éviter des débordements et l'utilisation abusive du concept. Ce qui est important à retenir, c'est l'intention. Est-ce que l'intention est de protéger ou de punir? Le concept des limites que je mets en place, ce sont des garde-fous que je crée pour moi, pas pour d'autres. Je ne suis pas prêt à faire ou à me soumettre ou à entendre. Une fois que grâce à l'auto-empathie, je sais quelles sont ses limites, je peux les communiquer à l'autre. Tom souligne ensuite l'importance de l'empathie avec un autre, une autre. L'importance d'avoir un empathy buddy. Revenons sur l'utilisation bienveillante de la force ou des limites mises en place, mais cette fois dans le cadre de l'éducation des enfants. Par exemple, dans l'addiction à la nourriture et au sucre. Si je mets des barrières ou si je retire des candies, des bonbons, des poches de mes enfants pour éviter qu'ils ne tombent dans la même addiction qui était la mienne pendant des années, est-ce que c'est l'utilisation bienveillante de la force? Pour Tom, c'est non, 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 parce que les limites mises en place, discutées plus haut, ne peuvent exister que pour nous. Autrement, il s'agit d'une requête obligatoire, en anglais, a demand. Retirer les bonbons de la poche de mes enfants est une entrave à la connexion. Les enfants, à 2 ans ou à 13 ans, sont comme leurs parents. La solution est de communiquer, communiquer, communiquer pour qu'ils puissent comprendre. Amy, qui est la partenaire de Tom dans son cours sur l'éducation des enfants en communication non violente, dirait « Waouh, je déteste faire ce que je vais faire et j'aimerais vraiment avoir une autre option, mais je n'en ai pas et je vais devoir te forcer à faire cela parce que je n'ai pas d'autre alternative. Je n'ai pas d'alternative. J'aimerais vraiment pouvoir faire autrement et ce que je fais ne me satisfait pas du tout. » Quand mon fils avait 2 ans, juste avant que je l'amène à la garderie le matin, en plein hiver à Chicago, il enlevait tous ses vêtements et je n'avais pas le temps de faire autre chose que de l'envelopper dans une couverture, prendre ses vêtements et de l'amener comme cela à la garderie. Est-ce que c'était l'utilisation bienveillante de la force? Je n'étais pas en colère, je n'avais pas l'intention de le punir, simplement de le protéger du froid et de me permettre d'aller au travail. Tom, souvent l'utilisation protectrice de la force est reliée au temps. On n'a pas le temps de discuter avec un enfant, on n'a pas le temps de discuter avec un bébé de 2 ans, on n'a pas le temps de discuter avec un enfant qui se jette dans la rue. Une idée, c'est que pendant le trajet jusqu'à la garderie, tu peux utiliser le temps comme une opportunité pour communiquer avec ton enfant. Le point important que je fais est, je fais cela parce que je n'ai pas d'autre option. Je voudrais faire les choses différemment parce que cette action de force change la nature de ma relation avec l'autre. J'ai cette croyance que je parle trop et je me juge souvent parce que j'interromps les autres impatiemment. Pour Tom, ce sont 2 sujets différents. Parler trop, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est trop? Quelles sont les choses que j'aime dans la vie qui me font dire que je parle trop? Quelle est la traduction de ce jugement? Est-ce que c'est la considération du temps des autres, par exemple, ou la connexion avec eux? Dans tous les jugements, je peux me poser la question, qu'est-ce qui est vivant en moi? Quelles sont les choses que j'aime dans la vie qui me font porter ce jugement? Tom dit souvent, What is that? Qu'est-ce que c'est? Pour revenir à la question sur l'addiction à la nourriture et au sucre, mon père était très strict sur un nombre de sujets et je me rends compte qu'en grandissant, j'ai fait le contraire de ce qu'il souhaitait. Je pense que son besoin était que nous soyons en sécurité, mais je trouvais que c'était injuste. Tom, je pense que c'est un sujet très difficile. Il y a une phrase de Marshall Rosenberg qui dit « Lorsque nous exerçons du pouvoir sur quelqu'un, il ne peut réagir que de deux façons, se soumettre ou se rebeller. » En revanche, trouver une situation de pouvoir avec quelqu'un, cela nécessite beaucoup plus de temps et surtout de communiquer, communiquer, communiquer. En finissant, Tom voudrait citer une autre phrase de Marshall Rosenberg qui se dit plus facilement en anglais qu'en français. « Anything worth doing is worth doing poorly. » Quelque chose comme ça, par exemple. Quelque chose qui mérite d'être accompli même imparfaitement. C'est une ode à la pratique. Alors, mes amis, pratiquez, pratiquez, pratiquez.